48 FM.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et une 16e émission par le bout de la lorgnette. Bonjour à toutes et à tous avec nos chroniqueurs bien présents au chaud alors qu'il pleut dehors. Valérie est là. Salut Valérie.
Salut tout le monde.
Anaïs qui vient pour la première fois nous présenter des livres. Salut Anaïs.
Salut tout le monde.
Nico également de retour dans cette émission.
Enfin
de retour.
Et toi aussi, tu nous as manqué.
Oui.
Ah, ça c'est gentil.
Parce qu'en fait, on a décidé aujourd'hui de vous proposer un spécial coup de cœur des animateurs. Vous entendez la chanson derrière nous, ce n'est pas du tout parce qu'on vous propose une série spéciale sur l'été, quoique ces livres, vous pouvez peut-être les récupérer pour vos vacances et les lire au bord de la piscine ou au bord de la plage. Mais on a choisi cette chanson, pourquoi Valérie ?
Pourquoi ? Parce que tu es en train de danser avec un string nu sur la plage avec un Schweppes à la main.
String nu.
Ah oui,
en général, pardon. Quand on
quasi,
met un string, on est...
Quasi voilà, nu, ouais. Voilà. Non, c'est une chanson de Francisco Buarque de Holanda, plus connu sous le nom de Kiko Buarque, me diriez-vous. Mais pourquoi parle-t-elle de musique alors que nous sommes dans le bout de la, par le bout de la lorgnette ? Tout simplement parce que Kiko Buarque, en plus d'être un talentueux musicien dont on entend en musique de fond un de ses titres les plus connus, est aussi un écrivain. Comment j'ai connu cet écrivain ? Je n'en ai aucune idée. Un jour, j'ai trouvé dans ma bibliothèque ce livre. C'est pas une blague, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas à qui je l'ai volé, je ne sais pas qui me l'a offert. Mais je sais une chose, c'est que je l'ai adoré. Donc Kiko Buarque, pour revenir sur lui, donc, c'est un Brésilien. Il est né à Rio en 44. Il est encore parmi nous aujourd'hui, bien qu'on le voit plus forcément trop sur la scène. On le connaît donc pour cette chanson, pour donc le livre dont je vais vous parler, qui est un petit coup de cœur, qui s'appelle Budapest. Il a aussi écrit la chanson, mais qui a été adaptée en français, de Qui c'est celui-là ?
Ah oui, voilà. Qui c'est lui, qui c'est ça, voilà. Qui c'est celui-là ?
Donc il a fait des pièces de théâtre, voilà, il est assez multi, j'allais dire multitâche. Et donc le livre dont je vais vous parler, donc Budapest, il a obtenu un prix, le prix Rabuti au Brésil, donc c'est un prix assez réputé au Brésil. Donc je vais vous parler un peu du livre. Donc c'est l'histoire donc de José Costa qui vit au Brésil. Il est écrivain, mais il écrit pour les autres des autobiographies, des discours politiques. Il a énormément de talent et il le met ce talent au service de ses clients. Il est complètement obsédé par les mots. Un jour, il rentre d'Istanbul où il était à un salon où se retrouvaient de tout un tas d'écrivains et son avion fait une escale forcée à Budapest. Donc, avant de rejoindre sa femme Vanda et son fils qu'il appelle l'enfant à Rio, il se retrouve donc en Hongrie, à la capitale Budapest. Curieux puisque passionné par les langues, par les mots, Il va essayer d'aller découvrir la ville avec la langue, l'écriture aussi qui est un peu différente. C'est pas quand même de l'écriture cyrillique, mais on s'y approche. Et très vite, en fait, cette escale qui devait être que quelques minutes va se révéler plus qu'une simple escale. Il va se retrouver dans un tourbillon linguistique. Ça, il va être chamboulé d'abord parce que les mots lui sont complètement incompréhensibles. Puis il va être chamboulé aussi par la rencontre avec une femme donc, qui s'appelle Kriska, qui est tout aussi mystérieuse que la langue hongroise. Donc le héros, donc José Costa, c'est un poète. Et à force donc, de voyager dans les langues, il va complètement tomber amoureux et de Budapest et donc de Kriska. Et il doit faire un choix. Est-ce qu'il pourra le faire ? Est-ce qu'il doit décider quelle femme il va choisir ? Vanda, Kriska, et quel enfant sera le sien ? Est-ce que ce sera son fils qu'il a à Rio, dont on ne connaîtra pas le nom, ou est-ce que ce sera le fils de Kriska avec qui finalement il va avoir plus de relations sur cette escale, comment dire, des sentiments plus profonds avec le fils de Kriska qu'avec son propre fils qui est élevé par une nourrice. Puisque sa femme Vanda, à Rio, elle est présentatrice télé, lui il bosse tout le temps, donc finalement c'est un peu un inconnu. Donc il va découvrir aussi la paternité à Budapest. Voilà. Donc, et lui, quel homme est-ce qu'il va devenir suite à cette escale ? Voilà, c'est un roman qui est curieux. Alors, il a eu la curiosité d'arriver dans ma bibliothèque. Il est d'autant plus curieux par la lecture, puisqu'il nous balade entre Rio, donc culture brésilienne, et la culture hongroise, qui sont un peu à l'opposé l'une de l'autre, et par le climat et par les mots. Et en fait,
ouais, ça n'a rien à voir du tout.
Ah, mais rien à voir. Ouais, non, il y a aucun lien de cause à effet. Mais c'est là où on se rend compte que même la langue en elle-même, elle est très différente, parce que quand il veut apprendre le hongrois, Kriska lui interdit de prononcer ni des mots en anglais ni en brésilien. Et en fait, un soir, il décide d'appeler chez lui parce que son escale a duré. Il est depuis son hôtel, il appelle chez lui à Rio et il tombe sur le répondeur de son épouse. Donc il entend parler en brésilien et là il se met à débiter à son répondeur tous les mots en brésilien un peu compliqués, des noms de plats, des noms de plages, de boissons. Et le fait de parler en portugais, c'est pour lui c'est comme une délivrance en fait. Il se lâche, il devient nostalgique et il a envie de rentrer du coup au pays. Comme quoi les mots peuvent être, enfin la langue
oui,
peut être.
La tâche. Ouais. C'est éloigné, mais Nico, tu connais pas la samba hongroise? Ceci le musical, non.
Hongrois que c'est de la zamba, mais zamba, de la zamba.
Ça n'en est pas. Est-ce qu'il a tiré, j'imagine qu'il a dû tirer un peu de son expérience de voyage.
C'est de la bossa nova, en fait, hein, c'est pas directement de la samba. Bossa nova,
oui, la samba,
le genre musical.
La samba reste brésilien.
Comme il dit la chanson, c'est la samba brésilienne.
Exactement. Voilà. Est-ce qu'il a tiré de son expérience, est-ce qu'on le sait, vu qu'il a dû voyager à travers le monde, il a dû bien sûr jouer à Budapest?
Ouais, moi je me suis posé la question en fait parce que je me suis sentie à un moment un peu trahie dans ce texte. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas en train de me balader moi en fait en tant que lectrice? Il nous présente donc le roman, il nous dit voilà, ça c'est la vérité, ce que j'écris c'est ce roman. Mais en fait je me demande si lui-même il nous perd pas, s'il nous trompe pas, est-ce que le narrateur est vraiment parti à Budapest? Est-ce que c'est pas juste José Costa, le narrateur, qui nous raconte une histoire sans y être allé, du récit dans le récit? Et effectivement, est-ce que finalement José Costa, c'est pas Kiko Buarque? Voilà, c'est puisqu'il est quand même auteur de théâtre, on pourrait imaginer tout à fait que ce soit une pièce de théâtre, ce livre, qui se jouerait par contre uniquement chez lui, donc à Rio, mais avec des intrigues hongroises. C'est assez, parce que de la Hongrie, finalement, il décrit très peu les paysages. C'est vraiment la Hongrie, la mentalité, la langue, l'écriture. C'est pas du tout, il nous parle un petit peu du Danube, mais c'est très anecdotique. Voilà, il y a juste un moment donné où il prend un plan de Budapest, mais il voyage plus dans Budapest par le plan, finalement, que par les balades. Donc voilà, c'est on se demande s'il nous dupe pas, si est-ce qu'il se dupe pas lui-même, en fait, est-ce qu'il est pas en train, lui, de se duper en restant longtemps sur cette escale, il se brouille, on est brouillé, et c'est passionnant à lire. C'est assez déroutant parce qu'on se dit, bon, chanteur qui va écrire. Et c'est super. Et on se rend compte que la langue, en fait, fait vraiment partie de l'identité. Et est-ce que le fait de parler notre langue, en fait, ne construit pas notre identité? Voilà.
Très bonne question, Valérie. Ouais,
n'est-ce pas? Vous avez 2 heures.
Et la réponse, c'est?
Vous avez 2 heures. Voilà, moi, ça a été.
On reçoit les copies, chers auditeurs, à partir de 14h.
Voilà. Excellent, Valérie. Oui. Alors, donc toi, tu dis Kiko, pas Chico.
Parce que je disais Chico, et un jour, une marque de puriculture m'a dit qu'on disait Kiko. Donc,
ouais. Et comme la langue est importante, c'est pas faire d'erreur.
Francisco Buarque.
Ouais, c'est
Chico.
C'est ça, Chico De Holanda.
Ouais, De Holanda.
De Holanda. Voilà.
Okay. Il a vécu en Italie, lui.
Aussi, c'est-à-dire, il était très branché politique aussi. Il a eu une phase même un peu où il s'est révolté contre le pouvoir au Brésil. Et il s'est même retrouvé donc en prison. Après, il est parti donc en Italie et il est revenu attiré à Sao Paulo. Enfin, il est revenu passionné. Donc, tu sais bien des choses sur lui. Tu regardes en même temps, Nico, ou tu le sais?
Non, mais ça fait partie de ma culture. J'ai beaucoup écouté.
Ouais.
Gilberto Gil, Venezuela de Moraes, tout ça.
Oui.
Ah, il est fort, il est fort.
Il est très très fort.
Mais en plus, non mais c'est réel. J'ai beaucoup baigné dans cette musique là.
Ouais, mais c'est vraiment sympa.
Étant plus jeune.
Ouais. Voilà, là on a écouté celle qui était, j'allais dire la plus connue, l'emblématique. Mais ouais. C'est vrai qu'il a fait des chansons un peu engagées sur des fonds ouais, de bossa qui sont
mais
super.
Gilberto Gil, il a beaucoup bossé avec Gilberto Gil. Il a fait beaucoup de choses.
Ouais.
On peut retrouver le livre chez quelle maison d'édition?
Alors bonne
toi,
question.
Folio.
Moi le mien vient de chez Folio. Ce qu'il y a, c'est une édition de quelle année? Il manque la première page, elle était déchirée.
C'est là où il y avait marqué pour toi, Valérie. J'ai réussi à rentrer chez toi, je suis complètement fou de toi.
C'est voilà. Ça.
Valérie.
Et quelqu'un est passé derrière pour l'arracher, mais a laissé le livre.
Sinon, j'ai reçu une carte postale anonyme cette semaine, tu m'as fou la Troïa.
Je sais peut-être qui c'est, ça, par contre. Est-ce qu'elle venait de New York?
Non. Mais d'ailleurs, celle de New York, je ne l'ai pas encore reçue,
moi non
si
plus.
Elle m'écoute.
Tiens, non,
moi non plus.
On va en reparler pas non plus. Voilà, et Héloïse qui était à New York, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui.
11 jours de vacances.
11 jours de vacances. C'est libraire. Beau métier, quand même.
Ouais. C'est cool, hein, libraire.
Ouais. Alors, en tout cas, c'est Budapest de Kiko Buarque. On vous le conseille, bien évidemment.
Absolument.
De toute façon, on remettra la photo du bouquin avec le titre et l'éditeur sur... sur la page Facebook.
Ouais, voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il a été réédité depuis. Est-ce que c'est... Enfin, c'est le dernier qu'il a écrit, hein, donc on peut supputer que si ça doit être réédité, c'est encore chez Folio, enfin qu'il n'ait pas changé de.
Voilà, on va essayer de vous mettre tous les livres qu'on va vous présenter, sauf peut-être celui que je vais vous présenter maintenant, parce que comme de nombreux livres, je les prêtais à des amis, c'est comme les CD, on les prête, on oublie, on ne sait plus à qui on les a prêtés, on ne les retrouve jamais. Donc je ne sais plus où il est, je ne l'ai plus, il faut que je le rachète d'ailleurs, ce livre qu'Héloïse ne connaît pas. Alors ça me fait bien plaisir, je vais pouvoir lui présenter, alors que c'est quand même un livre clé dans l'histoire de la littérature. C'est le livre Fin de Knut Hamsun, un écrivain norvégien, donc on était en Hongrie, allez on va se réchauffer un peu, on va aller en Norvège. Un écrivain qui est né en 1859, qui est mort en 1952, qui a été prix Nobel de littérature et qui a été également pro-nazi, qui a ouvertement affiché son soutien au Troisième Reich par la suite, donc un personnage controversé. Donc, j'en dirai un mot parce que bon, on peut pas passer outre son passé d'homme et politique, mais là on va quand même s'intéresser à la littérature comme c'est une émission littéraire avec ce livre qui est un livre extraordinaire, Fin. Un petit mot donc sur cet auteur qui se nomme Knut Pedersen, qui est né dans une famille paysanne démunie, qui vivait dans le comté de Nordland, qui est ensuite allé retrouver son oncle autoritaire et rude qui prend en charge son éducation. Et la rudesse justement des paysages, la dureté de ses années de jeunesse influence plus tard sa création et ses opinions. Donc je reviendrai dessus, je vous l'ai dit par la suite. Alors le jeune Knut se forme en autodidacte. À 15 ans, il vit de divers petits métiers et traverse la Norvège. Alors il faut le préciser parce qu'on est en 1875 quand même. Donc en 1875, décidé de partir faire des petits boulots à travers toute la Norvège, de ne pas suivre l'école et au final de devenir prix Nobel de littérature, c'est quand même pas rien. Après diverses déambulations, donc il décide de devenir écrivain à 25 ans seulement. Et après quelques tentatives médiocres, il choisit l'exil aux États-Unis. Il revient vite et il fait publier certains chapitres de son roman Sult, qui veut dire fin. Sult, c'est en norvégien.
C'est fin mangé ou fin fini?
Fin. FIM.
D'accord.
Mais justement, il y a un questionnement sur ce titre. Je vais y revenir aussi parce que au départ, la traduction l'a nommé La Fin, le titre du livre, alors que il se nomme Fin tout court pour diverses raisons que je vais expliquer par la suite.
Mais t'as expliqué en quelle année il a fait ça là?
Alors il a fait donc il est revenu à 30 ans. Il a sorti ce livre. Il a édité. Il est né en 1859.
D'accord.
Donc en 1890, il a édité ce livre.
Voilà.
Il a écrit ce livre.
Intégralement édité en 1890. C'est un livre clé, donc je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la littérature, mais il a entraîné ce qu'on appelle l'écriture moderne, contrairement à l'écriture naturaliste qui existait avant, avec des personnages extrêmement compliqués. C'était un fan de Dostoïevski, et on retrouve dans ses personnages cette patte de cette folie ordinaire. Il a influencé tous les Henry Miller, les Kafka. Kafka adorait Knut Hamsun. John Fante, que je vous ai parlé la dernière fois, était un grand fan de cet écrivain-là. Donc ce livre raconte en fait les déboires d'un écrivain qui souffre de la faim en raison de son difficile statut d'artiste. Ça combine dans ce livre entre lyrisme et mélancolie, ça décrit les affres et les tourments de cet homme qui joue en fait avec la création et la folie en même temps. Donc il a 30 ans quand son premier roman publié fin, et c'est en fait l'âge que l'on peut supposer à son narrateur. Donc en gros c'est son double, on va retrouver tout ce que lui a vécu dans sa jeunesse, la difficulté de devenir écrivain, de se faire éditer, être dans la rue. Le narrateur de ce livre donc de fin vit à Christiana à Oslo, il exerce différents petits métiers comme l'avait fait l'auteur, consacre l'essentiel de son temps à écrire des articles, des essais qu'il espère vendre à un journal pour quelques couronnes. Puis un jour, malgré toutes ces démarches, le travail vient à manquer. Donc je cite l'auteur dans ce livre, donc le narrateur, « Tous ces refus, ces demi-promesses, ces noms purs et simples, ces espoirs entretenus, puis déçus, ces nouvelles tentatives qui chaque fois n'aboutissaient à rien, avaient eu raison de mon courage. » Commence alors là une longue déchéance matérielle et morale dont le roman nous relate à la première personne. C'est le narrateur qui parle à la première personne. Donc ce processus, l'auteur dit « Pour finir, je me trouvais étrangement dépourvu de tout. Il ne me restait même pas un peigne ou un livre à lire quand tout devenait trop triste. » Donc du coup, le narrateur, il doit renoncer. Il a une chambre sordide, il doit partir. Il trouvait refuge dans cette chambre pour écrire. Il déambule dans les rues pluvieuses et glaciales. On imagine en Norvège des sommeils sporadiques sur les bancs des jardins publics, l'humiliation des nuits passées au poste de police, des tentatives de mendicité. Quand il se résout à demander à un employé d'une mercerie une petite pièce, il dit « Je me retirais malade de faim et brûlant de honte. Je m'étais transformé en chien pour avoir le plus minable des os et je ne l'ai même pas eu. » Vous voyez ce personnage-là, donc il se met à mâchonner des copeaux de bois ramassés dans la rue, des cailloux en imaginant que c'est de la viande pour pas avoir faim. Une poche qu'il arrache à son manteau. Et en fait, c'est un livre extrêmement joyeux et drôle, quoi. Il est super cynique, il a une vision second degré sur lui-même. Alors, malgré toutes ses aventures, on s'attache à ce personnage et on se dit, mais c'est nous, là, il faut qu'on arrive à écrire quelque chose, que ça soit accepté, qu'on ait enfin de l'argent. C'est extrêmement drôle, c'est très intelligent. Et au final, on se rend compte que ce personnage, parce qu'il y a plusieurs lectures, a une fascination pour l'abîme où il sombre, en fait, comme un vertige pour sa propre déchéance. Au-delà de, donc, du premier niveau de lecture, il y a un second où on voit une minutieuse, un processus psychologique d'autodestruction. Chaque fois, au final, dans ce livre, qu'une occasion se présente pour lui de sortir enfin la tête de l'eau, il s'arrange avec une exaltation presque masochiste pour ne pas la saisir et y renoncer. Donc, autre exemple tiré de ce livre, un épicier lui rend par mégarde la monnaie qu'il devait rendre à une cliente, 5 couronnes, ce qui est énorme, et on se dit, ça y est, il va enfin pouvoir manger, et à ce moment-là, il s'empresse de faire l'aumône de la rendre. Il dit quel goût merveilleux cela avait d'être redevenu un homme honnête. Mes poches vides ne pesaient plus. Ce m'était une jouissance de me retrouver sans un sou. Parce qu'en fait, il a rendu, il se sent fier. Ulayili, une jeune femme avec qui il a connu une brève aventure, à laquelle d'ailleurs il a volontairement mis fin, lui fait parvenir un billet de 10 couronnes pour l'aider, qui jette dédaigneusement au visage de sa logeuse qui vient de l'expulser. Je cite « Alors je remis le billet dans l'enveloppe, fis soigneusement une boule du tout, rebroussai chemin et allai jusqu'à la logeuse qui me guettait encore depuis le portail et lui jetai le billet à la figure. Voilà ce qu'on pouvait appeler se conduire dignement. » Tout le long, voilà, il y a cette ambiguïté et on voit qu'ils s'enfoncent, mais il en est fier. Voilà, tout se passe comme s'il cherchait aucune bonne raison de s'en sortir. On a faim avec lui, on est en colère avec lui et on lui trouve finalement aussi des raisons de ne pas s'en sortir. Donc ce personnage cynique et drôle. Et c'est ce que je disais en préambule, ce second niveau de lecture psychologique et non plus seulement social doit beaucoup à l'admiration qu'il avait de Dostoïevski, qu'on retrouve dans les personnages de ce grand écrivain russe. Il y a un troisième niveau de lecture également qu'on a retrouvé par la suite dans de nombreux écrivains, car au final, voilà... Faim, il s'agit pas seulement de nourriture, c'est faim du corps, c'est pas faim contingente. En fait, c'est une faim supérieure pour cet écrivain-là. Il a expliqué, c'est quasiment métaphysique. Quand on connaît la difficulté qu'avait Knut Hamsun dans la gestation de ses livres, les affres que lui imposait l'écriture, on peut facilement faire un parallèle, en fait, dans la faim, la condition physiologique qu'il s'impose, une sorte d'assesse pour accéder à cet état second, douloureux, extra-lucide, qui l'accompagne, mais qui favorise, en fait, le processus de création, comme beaucoup d'écrivains qui ont besoin d'être dans la difficulté pour pouvoir écrire. Et lui, il le couche sur le papier. Donc ça, c'était une révolution à cette époque, hein, je rappelle, hein, 1859, il est né, il avait 30 ans, donc sorti avant 1900. On lit ce livre, si on le sait pas, on imagine, bon, c'est extrêmement contemporain. Après, on le voit dans les descriptions d'Oslo, le froid, les gens. Mais c'est extrêmement, extrêmement contemporain comme livre. La fin, c'est sa muse, c'est sa compagne d'écriture. C'est pour ça que le livre s'appelle « Fin ». Pour tous ces niveaux de lecture et pas la fin, comme ça a été traduit malencontreusement quand ce livre est sorti. Donc ça préfigure les écrits de Kafka aussi, le kafkaïen, voilà, pas de solution possible à une situation donnée. Les recherches stylistiques et narratives également de beaucoup d'écrivains qui parlent de Knut Hamsun, qui a été adoré par de nombreux écrivains. Donc pour finir, on peut pas passer là-dessus, je l'ai dit, c'est un personnage controversé qui a affiché son soutien au Troisième Reich, qui a offert sa médaille à Goebbels quand même. Donc sa médaille du prix Nobel, il l'a offerte à Goebbels lors d'une entrevue avec Hitler en 43. En fait...
Il a fait aussi un texte en hommage à Hitler. Hein.
Quand il est mort.
Ouais, quand il est mort.
Quand il est mort. Et d'ailleurs, on a fêté ses 150 ans en Norvège et les Norvégiens étaient embêtés parce que c'est un tellement grand écrivain, parce qu'après, il a écrit d'autres romans exceptionnels. Mais il a cette histoire-là que, voilà, on a fait une exposition, il y a un timbre à son effigie pour ses 150 ans, quoi.
D'accord.
On n'a pas fait plus parce que c'est compliqué.
C'est compliqué après,
il a été adapté au théâtre aussi, apparemment, ce que je disais là. Il a été adapté au théâtre par Jean-Louis Barrault en 1939. Et puis, il y a eu aussi un film en 1966 qui s'appelait La Fin. Voilà, donc ce que tu disais, peut-être un parti pris du réalisateur et qui a été assez reconnu, cette adaptation, tout simplement parce que le personnage principal, Per Oscarsson, a reçu le prix du meilleur prix d'interprétation masculine, puisque c'est quand même une performance d'acteur
au
Festival de Cannes. Voilà. Ah. En 66. Voilà, bon, c'était pour dire que c'est quand même un auteur qui a été quand même pas mal lu, apprécié, je pense, aussi dans le monde de la critique cinématographique et théâtrale.
Voilà, et pour établir un petit peu son histoire, parce que bon, il est peu défendable, c'est un peu comme les Céline, tous les gens comme ça.
Mais qu'est-ce qui fait qu'un type comme ça puisse basculer sur.
En fait, il expliquait, il y a une biographie qui est sortie il n'y a pas longtemps sur lui de Norvégiens qui se sont intéressés depuis toujours à ce personnage. Ils expliquaient que ce parti pris pro-nazi, il l'explique d'abord par la haine des Anglais qu'il avait. Haine des Anglais qui a été nourrie dès l'enfance par les récits familiaux sur le blocus britannique des ports norvégiens pendant les guerres napoléoniennes. Il détestait les Anglais. Et également, la Constance de Londres a barré les tentatives d'indépendance de la Norvège. Donc, quand l'Allemagne a déclaré la guerre à la France et la Norvège, y compris la Première Guerre mondiale, de suite, il est allé vers l'Allemagne. L'Allemagne, on sait ce qu'il est advenu. Et donc, pareil pour la Seconde Guerre mondiale, où il était complètement anti-allemand. Anti-anglais, pardon. Mais il faut savoir qu'il est aussi antidémocrate, que tu t'en tues, tant qu'à faire. Ça vient de ses séjours en Amérique, où il était convaincu, lui, que le monde moderne, le cocktail explosif, comme il explique, de technique, d'individualisme et d'indifférence, mènera l'homme à sa perte. Lui, c'était un réactionnaire patenté qui voulait un pouvoir fort et un retour à la vie agraire. Bon, après, on est en 1930, etc.
Ouais.
Et là, sans doute, ils expliquaient qu'il règle ses comptes avec les élites qui l'ont pendant longtemps snobé. C'était un fils de paysan pauvre, expulsé du foyer familial, un élève intermittent, moins de 300 jours de scolarité dans toute son enfance, abonné au petit boulot, émigrant famélique en Amérique qu'il a dû quitter parce qu'il n'arrivait à rien. Il a vraiment eu une vie de chien qui raconte d'enfin, en fait. Alors, il y a une anecdote drôle parce qu'en 43, il rencontre Hitler. Il a à peu près 84 ans. Il est sourd et il est têtu comme jamais. Et donc, Hitler parle et il arrête pas pendant cette intervention d'interrompre Hitler aux grandes dames de l'interprète qui interprète. Et pour exiger la tête du représentant du Reich en Norvège qu'il aime pas, plus la fin de la répression actuelle en Norvège. Et donc, le Führer pète un boulard parce qu'il peut pas en placer une. L'autre, il est sourd et il gueule toutes les deux secondes. Ils disent, faut virer le Führer, faut arrêter de la répression, tout ça. Au final, Hitler le pousse dehors, quoi. Il le congédie complètement. Donc, à la fin de la guerre, il est interné. On lui fait un procès. Comme c'est un grand écrivain, les Norvégiens lui font un procès. Ils le jugent, ils le considèrent comme personnalité aux facultés mentales affaiblies et de façon permanente. Pour dire, c'est un grand écrivain, mais ce qu'il dit sur
fou,
Troisième Reich, il est un peu fou. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Sur sa dernière œuvre, il publie Les Sentiers où l'herbe repousse, où il relate ses aventures d'après-guerre, quand il est ballotté d'hospice en hospice, ce qui contredit indiscutablement la thèse qu'il est fou, parce que c'est un roman extraordinaire, quoi. Donc du coup, il est condamné en 48 à verser une amende de 325 000 couronnes norvégiennes pour sa collaboration avec le Troisième Reich. Il faut savoir qu'aussi aveugle qu'il est en politique et affûté dans L'Examen des âmes, il dénoncera jamais jamais ses compatriotes et ni il sombrera jamais dans des délires antisémites. Il a sauvé des juifs de la déportation, de jeunes résistants du peloton d'exécution. Et ça, lors de son procès, il n'en a jamais fait mention pour garder ces mêmes principes suicidaires que ses héros de ses romans. Mmh. Selon un écrivain intellectuel qui s'appelle Manès qui a nommé ça. Donc il a quand même par ailleurs voilà, sauvé des juifs, des jeunes du peloton d'exécution. Il n'en a jamais parlé parce que pour lui c'était la fierté d'être écrivain. Donc bon, c'est quelqu'un de controversé, mais en tout cas moi je vous conseille fortement ce livre Fin, qui est un livre vraiment, vraiment extraordinaire pour l'époque et qui a révolutionné beaucoup, beaucoup d'écrivains par la suite.
Il a je sais pas, peut-être tu l'as dit, j'ai pas écouté, il a une grosse, il a beaucoup écrit.
Oui. Il a pas mal écrit de nouvelles, de romans. Enfin, c'est pas, je peux pas te dire combien. Nico te le dira parce qu'il a des sources. Il a une oreillette avec des sources. Moi, je te dirais une dizaine entre. Mais il a écrit du théâtre, des romans, des poésies. Il a écrit des poésies. Il a commencé par ça.
Ouais, des romans. Il a écrit beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, voilà, mais pas forcément que des choses un peu sombres. Enfin, qui reprennent
non.
Sa vie,
non. Et même en étant sombre, ça reste drôle, cynique. Donc, ça reste quand même voilà. Après, il y a toute cette force de paysages bucoliques, de retour à la vie de paysan, tout ce qu'il a connu, c'est assez bien écrit.
Et alors moi, je me posais une question, comme ce sont nos romans préférés, j'ai envie de te demander comment tu l'as connu, ce roman ?
Mais ce roman, je l'ai connu par d'autres écrivains qui le citaient.
D'accord.
Henry Miller, que je voulais présenter, mais que j'ai pas décidé de présenter.
Qui apparemment se mariait beaucoup en lisant.
Qui se mariait énormément en lisant Knut Hamsun, alors que vous voyez, quand vous voyez le synopsis, c'est pas du tout drôle.
Bon, en même temps, Henry Miller, c'est Henry Miller, quoi.
Et Henry Miller, c'est Henry Miller. Voilà. John Fante qui disait, j'ai deux écrivains, moi, préférés, c'est Nietzsche. Et Knut Hamsun, quand il est parti à Los Angeles pour embrasser une carrière d'écrivain, justement, il est parti avec Fin. Avec Fin et Zarathustra. Ouais. Voilà, il avait ces deux livres, il en parle constamment, et même Kafka en parle. Donc, voilà.
Ouais, Zarathustra, c'est
ouais, ça donne envie, hein. C'est pas mal.
Ouais.
Je le prêterai quand j'aurai retrouvé qui c'est.
Qui m'a pas rendu. Là, c'est un appel. Profitez-en.
Là, c'est un appel. Allez, on poursuit. Anaïs, le sumo qui ne voulait pas grossir, et Eric et Manu Schmitt, comme les cuisines. C'est ça ?
Rien à voir.
Rien à voir.
Et Manu Schmitt.
Je vais quand même préciser comment Ludo nous a écrit Eric et Manu Schmitt sur le programme. Eric et ET, plus même Manu.
Ah, ce ne sont pas deux. Non, c'est un seul.
Non, j'aime beaucoup.
Eric et Manuel Schmitt. Oh. Ouais. Alors Anaïs, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce bouquin qui apparemment t'a beaucoup plu ?
Alors déjà, je vais parler de l'auteur, du coup, Eric et Manuel Schmitt.
Deux auteurs, Eric et Manu.
C'est un auteur qui est à la base agrégé de philosophie. Et aujourd'hui, ses écrits sont traduits dans plus de 50 langues différentes, ce qui en fait un des auteurs français les plus connus au monde. Et il a été primé 31 fois depuis 1994, autant pour ses œuvres théâtrales que pour ses romans. Donc voilà, moi j'ai choisi de vous présenter son roman qui est sorti en 2009 aux éditions Albin Michel et qui s'appelle « Le sumo qui ne pouvait pas grossir ». Donc ce livre, c'est mon papa qui me l'a offert. J'avais 14 ans et à première vue, j'étais pas du tout emballée parce que bon, l'univers des sumos, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais j'ai quand même tenu à aller au-delà de mes préjugés et voilà,
c'est
j'ai
bien.
Fini par le lire. Donc il se lit très rapidement. En 2 heures, c'est plié. Il y a à peu près 100 pages. Donc voilà, l'histoire se déroule au Japon, à Tokyo. Et le personnage principal s'appelle June. Donc June, c'est un garçon de 15 ans qui a pris ses affaires et qui est parti de chez sa mère parce qu'il considère qu'elle est trop gentille avec tout le monde, avec les voisins, les inconnus. Et lui, il n'arrive pas à trouver sa place de fils, en fait, du petit préféré, d'autant plus que son père s'est suicidé. Donc du coup, voilà, il préfère prendre ses affaires, il quitte le lycée et il s'en va pour Tokyo. De là, il devient vendeur à la sauvette et il vend des petites babioles en plastique pour subvenir à ses besoins. Et en fait, petit à petit, bah, il va se renfermer sur lui. Il va être écrasé en fait par la foule qui s'agite autour de lui. Et June, c'est un personnage qui est profondément malheureux. Il se crée une carapace de colère et de haine car il ne trouve pas de place en fait dans cette société qui le dégoûte profondément. Et envers laquelle il dit qu'il développe une allergie, il l'appelle l'allergie universelle. Voilà, tout le dégoûte, il se déteste et il hait les humains qui l'entourent. Donc il vit comme un SDF, il dort dehors et il se nourrit un petit peu comme il peut. Et il va faire la rencontre d'un curieux vieillard qui s'appelle Shominsu, qui, à chaque fois qu'il le croise, le harcèle en lui disant « Je vois le gros en toi ». À savoir que Jun, il est tout maigre et que son corps, il est vraiment à l'allure de son esprit, c'est-à-dire vraiment très en colère et très sec. Du coup, pourquoi Shominsu lui répète toujours cette phrase quand il le croise ?
« Je vois le gros en toi ».
Oui. Et ben, en fait...
Moi aussi, je vois le gros en toi.
On ne l'a jamais dit, ça.
C'est pas très sympa, faut se méfier de à qui on le dit.
Je suis passé en colère.
T'es passé en colère, c'est pour ça.
Non, mais en fait, tout simplement, Shominsu, il dit ça parce que c'est le dirigeant d'une école de sumo. Et c'est une des écoles les plus réputées de Tokyo. Et il voit en Jun un jeune homme qui a besoin de s'en sortir, qui en a les capacités, mais qui ne sait pas comment faire. Donc il va le pousser à venir voir une compétition de ce sport qui est quand même assez impressionnant. Et il va avoir beaucoup de mal, car Jun est très très borné et complètement fermé d'esprit face aux sumotori, qu'il considère comme des personnes obèses, infirmes, qu'il faudrait enfermer et soigner. Voilà. Mais au bout de plusieurs tentatives, Jun va finalement changer d'avis et aller voir ce concours. Et là, sa vision des choses va commencer à évoluer. Il va devenir passionné de sumo, donc on s'y attend vraiment pas. Et il intègre même l'école de Shominsu.
Il explique pourquoi ? Pourquoi il se passionne ? Qu'est-ce qu'il trouve dans les sumotori ?
En fait, c'est pas vraiment expliqué comme ça. C'est plutôt qu'il enlève les préjugés qu'il a quand il regarde le monde.
D'accord.
Et il essaye de regarder avec les yeux des gens qu'il aime bien. Et voilà, il découvre qu'il aime bien aussi.
Et aussi, bouffer des cailloux depuis 4 mois, on lui propose des bols de riz 10 par jour. Il dit « Ouais, cool, suis-moi ».
Oui, du coup, voilà, il intègre l'école de Shominsu et il entame une carrière. Mais c'est pas si simple, parce que Jun, en fait, doit faire face à ce qu'il déteste le plus au monde, c'est-à-dire lui-même. Parce que pour réussir à prendre du poids et à gagner des compétitions, il doit se décharger de toute la haine qui le constitue. Et pour cela, il doit faire face à son passé, dont il refuse de parler depuis toujours. Donc, accompagné par son maître, il va découvrir le bouddhisme zen et la méditation, qui vont l'aider à s'accepter tel qu'il est. Et à côté de ça, il va aussi découvrir l'amour, avec la jolie Reiko, qui est la petite sœur de son idole de sumo. Et ce qui est assez surprenant, parce qu'au début, voilà, on le perçoit vraiment comme une personne qui est complètement insensible et qui est incapable d'aimer quelqu'un, ou quoi que ce soit. Voilà, je vous dévoilerai pas la fin.
Alors, qu'est-ce qu'il devient ? Il grossit ou pas ?
Il grandit peut-être.
Il grandit, d'accord.
Ouais. Voilà,
mais il grandit, alors c'est un conte philosophique, c'est
oui,
ça ?
Oui, voilà, c'est très simple.
C'est une remise en question de soi.
C'est un travail d'introspection. Voilà.
Ça fait beaucoup réfléchir. On cerne très facilement le personnage et on ressent avec lui les douleurs de son passé, en fait, qui se traînent aux pieds comme un boulet. Mais il finit par découvrir qu'on ne peut progresser qu'en s'acceptant tel qu'on est réellement, et pas comme on prétend d'être.
Avec, ouais.
Voilà.
Est-ce que c'est un roman pour adolescents, finalement ? Parce qu'on voit, c'est souvent les adolescents qui sont en colère, ou pas. Oui,
Que toi, tu l'as eu à 14 ans, c'est
oui,
ça ?
Oui, je l'ai eu à 14 ans, mais...
Et comment tu l'as vécu, ça, à 14 ans ?
Elle a voulu devenir sumo.
Non, bah, oui, j'étais en colère,
oui,
comme tous les ados, et voilà, ça, on comprend un peu mieux que il faut s'accepter tel qu'on est, et que ça marchera que comme ça, et voilà.
Donc c'est un bouquin qui t'a plu.
Oui.
Qu'on conseille à tout âge, j'imagine.
Oui, c'est pour tout âge, oui.
Ouais.
Ils sont forts, pardon. C'est Eric et Manu.
Ouais, ils sont forts, Eric et Manu.
Alors qu'est-ce qu'il a écrit ? Parce qu'il écrit beaucoup de choses, hein, Eric.
Moi, je suis une inconditionnelle de la part de l'autre. J'ai hésité à le présenter aujourd'hui.
C'est, il a failli avoir un doublon.
Ça fait deux fois.
Alors, Odette tout le monde, il a écrit ouais. Monsieur Ibrahim, l'enfant de Noé, l'évangile selon Pilate, Oscar et la Dame Rose, c'est ça
ouais, je sais pas, moi, je connais pas.
J'en ai pas lu d'autres.
Il est très très prolifique, ouais.
Ouais, il a beaucoup fait des pièces de théâtre aussi.
Ouais, c'est un dramaturge, hein, à la base
ouais.
aussi. Hein,
Et comment t'écris son prénom alors là, parce que...
Eric, plus loin Emmanuel.
Ah. Non, tu plaisantes.
Plus loin Schmitt.
Mais je sais pas, moi. Je ne savais même pas qu'il était français, moi, Schmitt.
Tu savais qu'il était professeur d'éducation physique au début.
Ouais.
C'était un prof de PS.
Comme quoi, tout est possible.
Ouais, tu vois.
Voilà.
Super, merci beaucoup, Anaïs.
Ouais.
C'est
ça donne envie.
Ça, quelle maison d'édition
C'est Albin Michel.
Albin Michel. Eh bien, aujourd'hui, on est bien dans les maisons d'édition. Hein. Folio, Albin Michel. Ouais. Heureusement que Nico arrive avec ses livres Underground. Abdourahman Aouaberi pour la divine chanson. Tu veux qu'on fasse une pause avant? Une pause? Allez, on va faire une pause musicale. On l'explique maintenant ce qu'est cette pause musicale ou pas?
Non.
On l'expliquera après. Ouais, ça sera la surprise. Allez, c'est parti.
C'est lié avec le livre. Hein.
Someone else, I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I've loved and I've lost same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You won't ever have to worry. Ever have to cry. For I'll be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true. There's no doubt in my mind, know what I want to do. And just as true as one and one is two, I know I'll take care of you. I'll take care of you. Take care of you. I'll take care of you.
Jill Scott Aaron. Pourquoi cet artiste, Nico?
Parce que.
Non. I'll take alors, care
en fait,
of you.
En fait, le lien, bon, avec le bouquin, alors, d'abord raconter que Jill Scott Aaron, en fait, c'est un chanteur, poète, musicien, qui est né donc à Chicago dans les années 1949. Pas très connu dans le monde musical grand public, je dirais, mais très très connu par les puristes du style, blues, etc. Donc quelqu'un qui a fait une grosse carrière mais qui est passé un peu à côté de sa véritable carrière parce que ses engagements, sa personnalité particulière a fait qu'il a refusé un peu le système. Donc il est resté un peu underground, il est resté un petit peu aux limites, un petit peu du showbiz. Mais il aurait pu faire une énorme carrière et il a été reconnu comme un des très très grands chanteurs poètes, voilà, aux États-Unis. Alors le lien avec le bouquin, c'est qu'en fait... je vais vous parler de Abdourahman en fait Aouaberi qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle La Divine Chanson, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc c'est les éditions Zulma, une maison d'édition un peu particulière.
Et pour te poser la question avant que tu aies fini, comment tu l'as trouvé ce livre, enfin où est-ce qu'il t'est apparu?
C'est une découverte de lorgnette.
D'accord.
Voilà.
Sur conseil donc d'Héloïse.
Ouais, sur conseil d'Héloïse qui me conseille souvent des bouquins comme ça qui, je sais pas si on peut dire, où il y a beaucoup de réflexions. En tout cas, c'est des univers à la fois philosophiques et métaphysiques parfois, et où il y a de la réflexion, où il y a une très belle écriture. Ce que j'ai beaucoup aimé dans dans ce bouquin et notamment dans ce qu'elle écrit, cette femme, Abdourahmane Waberi, c'est cet homme, pardon, c'est une femme, Abdourahmane, c'est d'abord voilà, sa façon d'écrire qui est tout en poésie, tout en finesse, avec des métaphores extraordinaires, mais je vous en lirai tout à l'heure un petit morceau, voilà, parce que c'est vraiment très très bien écrit. Et cette divine chanson, en fait, c'est un roman amoureux qui s'empare d'une vie exemplaire, celle de Jill Scott Heron. En fait, dans le bouquin, on ne parle pas de Jill Scott, elle l'a renommée, Sammy Camo Williams, elle l'appelle, voilà. Mais c'est vraiment la vie de ce personnage qui, donc sa mère s'appelait Bobby, et son père, en fait, était un grand joueur de foot, qui a fait foot et rugby, qui s'est pas mal expatrié, qui a laissé sa mère. Et donc, il a été élevé par sa grand-mère. Et sa grand-mère, en fait, elle lui a appris le piano d'abord. Et puis, il a été initié un petit peu à tous les rites initiatiques religieux des sources afro-américaines. Et il jouait dès qu'il pouvait du blues. La musique était quand même à l'époque considérée comme satanique. Donc, à la mort de cette grand-mère, c'était une activiste chevronnée. En fait, elle lui a laissé un petit peu toute une mémoire sur l'esclavage africain, donc ce qui a donné chez lui une part un petit peu de revendication, de personnage très très marqué, quoi, qui essayait de lutter un petit peu contre tout. Et en fait, le bouquin il est intéressant parce que en parallèle à ça, il récupère un chat dans une rue, dans un quartier d'Harlem, et ce chat, en fait, c'est un chat qui a vécu plusieurs vies et qui va raconter, en fait, en tant que chat, l'histoire de ce musicien.
D'accord.
De ce qu'il était. Voilà. Et donc, c'est très, très bien écrit, parce qu'on voyage à travers ce bouquin, ensuite, toute son épopée.
Et le fait que le chat ait eu plusieurs vies, ça a une influence dans le roman ou c'est...
Oui, parce que, en fait, ce chat parle de ses ancêtres, de ce qu'il a déjà vécu. Voilà. Et donc, ça nous fait voyager. C'est aussi une réflexion sur... la particularité des chats, de ne pas s'attacher, d'être assez autonome, etc. Et j'ai trouvé cette écriture à la fois avec de la distance de ce personnage qui parle jamais à la première personne, mais en même temps, ça donne une atmosphère très douce, très très jazz en fait, très blues quoi. On est vraiment dans cet univers là, voilà. Et puis c'est une très belle écriture, donc c'est plusieurs vies aussi. Je pense que ça amène à plein de réflexions, à plein de d'histoire, de vie en fait, et du coup une écriture extrêmement riche, très déliée, avec beaucoup de métaphores.
C'est une biographie romancée finalement ?
Oui, c'est un petit peu ça, c'est une biographie romancée. Je ne sais pas si tout est véridique. Moi je ne connaissais pas Jill Scott Heron, donc j'ai lu un petit peu sur lui, c'est quand même extrêmement proche de ce qu'il racontait. Et le chat en fait s'appelle Paris. Voilà. Alors c'est aussi un lien avec, en hommage un petit peu avec l'amour qu'il avait de la France et notamment de la capitale parisienne, dans lequel il est venu à plusieurs reprises, et il a beaucoup beaucoup aimé cette ville. Donc il en parle avec il en parle très très bien.
Tu lis quoi, chérie ? C'est un chat qui raconte une histoire. Je progresse, très bien.
Alors juste vous lire un petit passage quand même. Donc là, c'est le chat qui parle. Je me souviens du nom si étrange de son auteur, du moins à mes oreilles, de chat new-yorkais. Abdelatif Lahabi. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'imagine que c'est un vieux sage qui en a vu des portes s'ouvrir et se fermer. Je vous le récite de mémoire, ce poème. Ô jardinier de l'âme, as-tu prévu un carré de terre humaine où planter encore quelques rêves ? As-tu sélectionné les graines, ensoleillé les outils ? Consulter le vol des oiseaux, observer les astres, les visages, les cailloux et les vagues. L'amour t'a-t-il parlé ces jours-ci dans sa langue étrangère ? As-tu allumé une autre bougie pour blesser la nuit dans son orgueil ? Mais parle, si tu es toujours là, dis-moi au moins, qu'as-tu mangé et qu'as-tu bu ? Un petit extrait poétique. Alors, il y a comme ça des poésies, il y a des descriptions qui sont franchement magnifiques quoi, dans ce bouquin. Il faut aimer la belle littérature, il faut aimer la belle écriture. C'est, euh, c'est un bouquin qui vous voilà qui enfin qui moi m'a beaucoup apaisé en fait en le lisant.
Ça a l'air calme, ça a l'air dire une mer toute lisse.
Ouais, c'est ça, ça fait ouais. c'est assez assez philosophique aussi quand même comme réflexion sur la vie, le dénouement puisque il a été extrêmement miséreux, cet artiste, pas trop reconnu. Il a fait des grandes salles, bon, il a été connu, puis il a été un petit peu mis à l'écart du monde de la chanson et de la musique. Mais c'est vraiment un artiste à découvrir, et je pense qu'il faut, en lisant ce bouquin, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'écouter sa musique aussi, de se remettre dans cet univers. Et ça parle, et dès qu'on écoute quelques morceaux qu'on trouve rapidement en tapant son nom sur YouTube, on se replonge complètement dans l'univers de ce personnage. Puis bon, il a un faciès, c'est quand même un personnage assez marqué et remarquable.
Alors on va communiquer dessus certainement la semaine prochaine, mais on sait que pour la fête de la musique, on donne des cartes blanches d'une heure à toutes les émissions qui passent sur 48 FM. Il y aura une carte blanche par le bout de la lorgnette. Nico, tu pourras peut-être nous faire passer samedi 20 juin prochain, donc à cette occasion, des chansons de cet artiste.
Ouais. Ça va être sympa. Alors, avec le rap US d'Héloïse.
Entre le rap US d'Héloïse et Dick Rivers, ce que veut passer Valérie, ouais, ça peut être sympa.
Alors sur l'auteur en fait Abdourahmane Awaberi, il est né en 1965 dans l'actuelle République de Djibouti, donc il est français. Il vit entre Paris et Washington. Depuis Le pays sans ombre, c'est un des ouvrages qu'il a écrit en 94, trilogie consacrée à son pays d'origine, jusqu'aux États-Unis d'Afrique, un deuxième ouvrage. Son œuvre romanesque est traduite dans une douzaine de langues. Ses constitutions de courts textes, il brosse le portrait en kaléidoscope d'un pays terrassé par ses fièvres, ses famines et ses guerres. Il publie ensuite Cahier Nomade en 96, puis deux ans plus tard, Balbala. Et ces trois ouvrages constituent une trilogie sur son pays natal, une première pour Djibouti.
Ouais, excellent. Tu nous rappelles la maison d'édition ?
Édition Zulma.
Ok.
Voilà, c'est un bouquin qu'on peut trouver chez Lorgnette.
Allez, voilà. Mais faut pas hésiter à y aller. Si vous rappelez,
c'est un beau
petit
cadeau,
titre,
ça a l'air beau. Ouais, non, mais c'est très très beau, très très beau. Voilà. Merci, Héloïse.
Voilà. Et si vous rappelez plus du titre, vous demandez à Héloïse le livre de Nico. J'aimerais le livre de Nico du chat, là, le chat qui parle. Allez, super, bon, mais je vais aller très vite, vu qu'il est déjà 1h16 et qu'il nous reste un peu moins d'un quart d'heure d'émission. Deuxième livre que je présente, moi, Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Et oui, on va rétablir l'ordre après le pro-nazi de la première partie. Un anti-nazi qui, d'ailleurs, a fini par se suicider car il ne croyait plus en l'homme suite à la Seconde Guerre mondiale. Je vais passer la vie de cet écrivain qui est né à Vienne. Et donc, il est mort au Brésil par suicide le 22 février 42. Écrivain, dramaturge, journaliste, biographe, grand biographe autrichien, ami de Freud, de Romain Rolland, de Richard Strauss. Je vais pas parler de sa vie qui est un roman.
Juste une biographie qu'il faut lire, c'est Marie-Antoinette. Si on doit lire une biographie écrite par. Ouais.
Marie Stuart est exceptionnelle aussi.
Aussi. Bon,
ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Et moi, je vais vous parler en fait du seul roman qu'il ait achevé de son vivant, qui se nomme La pitié dangereuse ou L'impatience du cœur. Donc, c'est un roman qui est paru en 1939, trois ans avant sa mort. À titre posthume, il y a Le joueur d'échecs qui est sorti, mais on ne sait pas s'il avait vraiment terminé, si c'est la maison d'édition qui l'a rangé. Enfin, c'est un très très bon livre, Le joueur d'échecs, quoi qu'il en soit. Mais c'est pas le livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette œuvre raconte l'histoire d'un jeune officier autrichien, Anton Hofmüller, qui, malgré lui, suscite l'amour d'Edith de Kekesfalva, une jeune paralytique et fille d'un riche propriétaire de la région. C'est l'amour fou de la fille pour cet homme qui finit en tragédie. Donc le synopsis, en 1913, dans une petite ville de garnison autrichienne, Anton Hofmüller, jeune officier de cavalerie, est invité dans le château du riche Kekesfalva, au cours duquel il rencontre dans la soirée la fille de son hôte. Il y a toute la noblesse qui est réunie, tous les gens importants, et il se dit après le repas où il marque assez bien quand même, alors que c'est un jeune officier sans le sou, qui a aucun grade ni rien, enfin qui a un grade mais qui est tout nouveau. Les valses arrivent, la danse arrive, et qu'est-ce qu'il se dit? Ben, je vais inviter la fille du hôte, normal, et ça se fait, sauf qu'en fait elle est paralysée et qu'il le sait pas, et donc elle peut pas danser. Tout le monde voit ça, elle tombe de sa chaise, enfin gros problème. Toute la noblesse se rend compte de cette maladresse, et justement, désireux de réparer sa maladresse, Anton accumule les faux pas qu'il attribue à ce que Stefan Zweig appelle l'impatience du cœur, car cette jeune fille tombe éperdument amoureuse d'Anton. Donc en introduction du livre, Zweig annonce, alors le titre du livre, La pitié dangereuse ou l'impatience du cœur. Il y a deux sortes de pitié, l'une molle et sentimentale qui n'a en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser au plus vite de la souffrance d'autrui, cette pitié qui n'est pas du tout la compassion, mais un mouvement instinctif de défense de l'âme contre la souffrance étrangère. Et l'autre, la seule qui compte, la pitié non sentimentale mais créatrice, qui sait ce qu'elle veut et est décidée à persévérer avec patience et tolérance jusqu'à l'extrême limite de ses forces et même au-delà. On imagine bien que c'est donc cette première pitié molle et sentimentale qui touche l'auteur. Donc je vais vous lire juste les premières lignes du livre après cette annonce que Zweig fait en préambule. Toute l'affaire commença par une maladresse commise en toute innocence, une gaffe, comme disent les Français. Puis vint le désir de réparer ma bêtise. Mais quand on veut remettre trop vite en place une roue dans une montre, on finit le plus souvent par en briser tout le mécanisme. Même aujourd'hui, après des années, je n'arrive pas à fixer la limite où a fini ma maladresse et où a commencé ma faute. Il est probable que je ne le saurai jamais. Voilà. Ce roman, donc, c'est suite à ce problème avec cette jeune fille. Mais tout le roman, il va essayer de rattraper. Plus il veut aider cette jeune paralysée, plus il s'enfonce, c'est gaffe sur gaffe. Alors c'est un roman qui reste drôle, mais qui est émouvant, qui est poignant, c'est intelligent. Enfin, c'est vraiment, vraiment du grand art. Les personnages de ce roman, le seul que Stefan Zweig ait achevé, c'est des personnages qui au final, ils sont hébétés de leur tragédie, ils sont symboles d'une civilisation décadente, mais ils sont incapables de résister à l'ivresse d'une dernière valse. Voilà, c'est une histoire d'amour déchirante où la fatalité aveugle ce qu'elle veut perdre. Alors, il y a des personnages secondaires qui sont tout aussi intéressants. Par exemple, le père de la jeune fille, je finis, qui se pose d'emblée comme une victime. Et en fait, il s'aperçoit que sa fille est amoureuse de cette personne qui l'invite, qui le nourrit, etc. Le docteur qui lui dit, la maladie, on ne sait pas si ça va pouvoir la sauver, mais toi, tu peux la sauver par le cœur, donc dis-lui que tu es amoureux d'elle. Mmh. Enfin, c'est kafkaïen aussi comme situation. C'est très bien écrit, c'est très, très beau.
Toi, t'aimes bien tout ce qui
est très
proche de Kafka, je trouve.
Je ne l'ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder. Voilà, Stefan Zweig, un grand humaniste pour ce roman que je conseille à tout le monde. Valérie, tu vas nous dire à quelle maison d'édition, vu que tu l'as en main.
Oui, chez Livre de Poche.
Chez Livre de Poche. Mmh. Et au-delà, bien sûr, il y a toute la question sur comment parler à un malade, le comportement du docteur est-il le bon par rapport à celui du malade, est-ce qu'on doit préférer le bonheur du malade à la vérité, etc. etc. C'est extrêmement bien écrit. Voilà.
C'est des questions de société. Hein.
C'est des questions de société qui posaient déjà en 1939 et où il n'y a pas toujours de solution en 2015.
Mmh. Alors, un truc plus léger avec Anaïs.
Oui. Dans un style beaucoup plus décontracté, j'ai choisi de vous présenter une œuvre de India Desjardins, qui est une bande dessinée intitulée La célibataire. Donc India Desjardins, c'est une écrivaine québécoise trentenaire. Et pour ce livre, elle a travaillé en binôme avec Magali Foutrier, qui est une illustratrice française. Voilà, donc je me suis acheté cet ouvrage quand il est sorti en 2012, parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil au niveau des graphismes qui sont très frais et très colorés. Et aussi parce qu'il tombait à pic vu ma situation de l'époque. Et voilà, j'ai pas du tout regretté. Ce livre présente des petites histoires courtes et drôles sur la vie d'une femme célibataire de 30 ans qui a encore échoué dans sa dernière relation amoureuse. Donc c'est très amusant et très bien fait parce que voilà, ça représente vraiment la réalité d'une majorité de femmes célibataires qui sont confrontées à leurs copines à qui tout réussit, qui ont des maris, des enfants, un travail, enfin voilà. Mais du coup, tout est tourné de manière à se réconforter sur la situation et à positiver le fait d'être seule aux commandes de sa vie. Parce que c'est vrai, quand t'es célibataire, t'es plus obligé de dépenser tous tes salaires chez l'esthéticienne. Tu peux devenir un yéti. Il n'y aura personne pour te reprocher.
Un yéti. Non, mais... Oh, l'image. Mais c'est vrai que c'est un peu coquin, quand même. C'est assez rigolo.
Oui. Hein, oui, oui. Non, mais plus sérieusement, c'est vraiment une jolie bande dessinée très légère, aux illustrations vraiment expressives et modernes. Donc, je pense que chaque lectrice trouvera un goût de vécu dans au moins une de ces histoires.
Ah oui, oui, ça je confirme. Hein.
Et je dis lectrice, mais on peut aussi dire lecteur, parce que cette BD, ça peut peut-être être le moyen que les hommes puissent comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête des femmes. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié cet ouvrage.
Bon, messieurs, vous avez entendu.
On rappelle peut-être la maison d'édition, Nico, vu que tu l'as en main.
Alors, la maison d'édition, c'est chez Michel Lafon.
Michel Lafon. L'auteur, le titre ?
C'est par India Desjardins, et ça s'appelle La Célibataire. Et il y a le tome 2 qui est sorti fin 2014. Donc voilà, il a l'air encore mieux. Non, je ne l'ai pas encore.
Ouais, les dessins sont assez, jolis. Hein. C'est très...
C'est léger, c'est comme disait Anaïs. Ouais.
C'est le Bridget Jones.
Oui, un petit peu, ouais.
Je n'ai pas vu ce film.
Non plus.
Je n'ai pas lu ce livre non plus. Ah, c'est un livre aussi.
Une fois.
Une fois.
Mmh. Alors, c'était un véritable succès en France et au Québec.
Mmh. Ah voilà. Bon. J'étais bon là. Ok, qui c'est qui s'y colle?
Moi, Valérie. J'ai un petit résumé parce que j'ai un livre très court, donc du coup j'ai un résumé court. Je voulais parler du Lion de Kessel, mais c'est un peu long, donc je vais vous parler des souris Kessel. De Jojo. Ouais. Mais je vais rester avec les jeux avec John Steinbeck.
Des souris et des hommes.
Qui n'est pas son meilleur livre, je tiens à le dire.
Je sais, nous avons une discussion là-dessus.
Peut-être, mais c'est un des livres qui est extrêmement lu aussi en collège et lycée quand même. Il était très étudié.
Ouais, c'est disons, j'avais pris un livre
le
par.
Le Lion aussi d'ailleurs.
Ouais, j'avais pris un livre par décennie, ouais. C'est-à-dire
qu'est-ce
première décennie.
Qu'est-ce qu'elle
est
scolaire alors,
c'est ça. Valérie. Première décennie, j'avais pris le Lion. Bah, deuxième décennie, des souris et des hommes. Troisième décennie, Budapest. Voilà. Non, en fait, c'était tous les 7 ans. Je suis beaucoup plus jeune que ça. Voilà, donc c'est un bouquin qui m'avait énormément marqué quand je l'avais lu. Comme il reste peu de temps, je ne vais pas forcément revenir sur Steinbeck, mais plus sur le roman, parce qu'il est très court, très puissant, intense. Donc, nous sommes dans la Californie des années 30, en pleine dépression, et nous avons rencontré George Milton et Lenny Small. Ce sont deux amis qui rêvent leur rêve américain. Leur objectif, économiser sur leur paye pour s'acheter un lopin de terre avec une petite maison et des lapins pour Lenny. Important. C'est le cadre idyllique de la petite maison dans la prairie. Donc Georges et Lenny sont deux ouvriers agricoles. Ils sont en route pour un ranch où ils ont été embauchés pour faire des petits travaux journaliers. Georges, c'est le petit. Il est intelligent, il est brave, il est méfiant. C'est un peu le bon, la brute et le truand. Lenny, lui, c'est un colosse. C'est le colosse. Il est par contre totalement demeuré. Mais il n'est pas méchant. Et par contre, il ne connaît pas aussi sa force physique. Et il a un trait particulier, Lenny, c'est qu'il a une passion pour caresser les choses. Tout ce qui est doux, il veut le caresser. Donc, Georges va le protéger, va veiller sur lui comme un grand frère. Ils ont une amitié qui est pure, qui est solide, mais qui malheureusement ne va pas suffire à les protéger contre toutes les maladresses de Lenny, eu égard de sa passion donc pour... caresser les choses douces. Et bien sûr, ça laisse présager un drame sur...
On ne dit rien, madame voilà. Valérie.
Non, mais ça laisse présager. J'ai dit que ça allait arriver. Voilà, et en fait,
ça va arriver, je vous le rassure.
le livre est très court. Là, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. 3 heures d'avion, le livre. Hein, et c'est vraiment... Il se lit vite, mais il marque. En fait, c'est un livre qui...
Mais tous les livres de Steinbeck, c'est un très, très, très grand écrivain.
Ouais.
En parlant en préambule de notre désaccord, moi, je suis complètement fan de Tortilla Flat et de sa suite Tendre Jeudi, mais encore plus de Tortilla Flat qui raconte l'histoire d'amis qui passent leur journée à chercher de l'argent pour acheter du vin ou à boire du vin.
Mais c'est souvent
très drôle, c'est l'amitié, c'est tout ça.
Mais c'est Steinbeck, c'est assez populaire, c'est les années 30, c'est populaire, c'est l'amitié, c'est souvent ce qui est mis en avant. Donc là, tous les personnages en fait de ce récit, ils sont un peu prisonniers chacun à leur façon, ils souffrent, mais ce qui ressort énormément de tous ces personnages et qui sont quand même bien mal en point, c'est l'espoir. Moi, c'est ce que j'ai retenu sur ce livre court. Ils ont des rapports forts, ils sont solidaires, malgré l'austérité ambiante qu'il y a autour d'eux, mais ils sont prisonniers. Donc Georges, lui, il est prisonnier de sa misère. Lenny, lui, il va être prisonnier de sa grosse carapace de benêt. Ben, Crooks, il est prisonnier, lui, d'être noir, tout simplement. On est dans les années 30 aux États-Unis. Candy, c'est un homme qui est totalement invalide, mais qui rentre dans leur rêve à eux du lopin de terre des lapins. Lui, il est prisonnier de son invalidité. Curly, c'est le propriétaire du ranch où il travaille, prisonnier de sa méchanceté. Et enfin, il y a la femme de Curly, qui est une petite actrice loupée, qui est prisonnière de sa solitude. Enfin, c'est un roman court, intense. La tension monte jusqu'à un dénouement qui ne laissera personne de marbre. Il n'y a pas un mot de trop. Tout est à sa place. Tout est dit.
Allez, on vous conseille de lire toute l'œuvre de Steinbeck. Ouais. Très bien.
À partir de quel âge, Valérie, ça ?
Moi, je ne sais pas.
14-15 ans, non ?
Je l'avais lu, ouais, je pense que je l'avais lu, je crois, en seconde, donc ouais, c'est ça. Mais là, 3-4 ans plus tard, tu vois, je le relis avec plaisir.
Non, moi, je le conseille ouais, pour des jeunes de 15 ans.
C'est pas 15 ans, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu l'as lu, Anaïs ?
Non. Non.
Allez, bon, très bien.
Anaïs, tu vas me le lire.
Tu as 20 secondes pour terminer.
Ils sont super cool. Moi, je voulais vous parler d'un truc magnifique.
Ah, on peut déborder un
truc super magnifique. Alors, ça s'appelle « Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants ». Je t'offrirai, à partir de toutes petites choses, des spectacles admirables. Chante Virgile, poète, auteur, romain. À partir de ces toutes petites choses, par exemple, les abeilles, célébrées par Virgile, à partir de presque rien, un flocon de neige offert par Kepler, Jean-Claude Amezen nous entraîne dans un vertigineux voyage. Jean-Claude Amezen, c'est aussi l'auteur de cette fabuleuse émission qui a lieu tous les samedis matins de 11h.
Sur
à midi
sur France Inter. Pardon.
Pour la petite anecdote, pourquoi ce livre m'a beaucoup plu ? D'abord parce qu'il m'a été offert. Et ça, c'est déjà
c'est
pas mal.
C'est d'autant plus plaisant.
C'est ça.
Voilà. Et il m'a été offert parce qu'en fait, j'écoute. Enfin, chaque fois que je peux, je mets la radio. Je passe sur France Inter le samedi matin et j'écoute cette émission qui est excellent. Une vulgarisation scientifique excellente avec Jean-Claude Amezen qui est un puits de science, de savoir. Pour la petite histoire, en fait. Jean-Claude Amezen, en fait, il est né en 1951 à New York. C'est un Français quand même, un médecin immunologiste et un chercheur en biologie français. Pendant son internat de médecine à Lille, il devient chercheur au sein de l'INSERM dans le domaine de l'immunologie. Il est nommé professeur de médecine à l'Université de Paris Diderot. Et puis aujourd'hui, il est même président du comité d'éthique de l'INSERM. Il intervient beaucoup sur les questions d'éthique. Il est membre du comité consultatif national d'éthique. Donc c'est un rôle très important et il se lui prend beaucoup de temps. Entre temps, il écrit parce que toutes ses émissions sont écrites avec des références extraordinaires. Quand on écoute ses émissions, on a l'impression d'être... de devenir intelligent, de devenir scientifique, de comprendre la science. Et ça, je crois que il a reçu beaucoup de prix hein, pour cette émission. Donc, il nous fait un voyage à la rencontre des abeilles et de leur extraordinaire alliance avec les fleurs dont dépend notre survie. Des fourmis qui tressent leur fil d'Ariane et découvrent la sortie des labyrinthes quand on les enferme dedans. De l'étrange géométrie des alvéoles et des flocons de neige, de la course des planètes, comètes et astéroïdes. Qui scandent nos jours, nos années et les millions d'années, des minuscules horloges biologiques qui battent les heures au cœur de chaque vivant. Dans un voyage à travers l'espace et le temps, la découverte de la mystérieuse splendeur de l'univers qui nous entoure et nous a donné naissance, avec des références à énormément d'auteurs, donc on peut retrouver ces auteurs après. Et ce livre, en fait, c'est un petit peu tous ces témoignages. C'est très très bien écrit.
C'est plusieurs de ses émissions, en fait, qu'il a condensées
oui,
dans le livre.
Ouais. Et donc, c'est une autre façon de retrouver les émissions. Mais on est... c'est pas la même lecture. C'est-à-dire qu'on... Quand j'ai relu le livre, en fait, je réentendais sa voix qui est magnifique, que j'aime beaucoup aussi.
C'est ce qui fait le charme de France Inter. Ils ont quand même des présentateurs qui ont des voix.
Et ils ont un montage derrière qui est fabuleux. Il a des recherches musicales aussi qui sont magnifiques, toujours dans le bon tempo. Et donc, pour moi, en fait, ce livre, c'est un voyage sur les rives de l'empathie du monde. Voilà. Il a fait un très beau travail sur l'empathie. Qu'est-ce que c'est que l'empathie et pourquoi c'est utile? Moi, je l'ai souvent cité. Je cite souvent, soit aux étudiants avec qui je fais des cours. Mais j'en parle beaucoup parce que je pense que c'est un très très grand monsieur et qu'il faut vraiment lire ce qu'il écrit et écouter ses émissions. Voilà, c'était vraiment un vrai coup de cœur.
Il en a sorti d'autres du coup de livres sur
oui, il y a le tome 1, ça c'est le tome 2, je t'offrirai des spectacles admirables. Mais il a écrit beaucoup beaucoup de bouquins. Hein. Il a écrit, qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit dans la couleur de l'oubli, la sculpture du vivant, dans la lumière et les ombres. Voilà. Alors par exemple, un extrait juste pour faire que ça, en partageant et en intégrant ces informations individuelles, parcellaires et incomplètes, la colonie, donc là c'est les fourmis, dans son ensemble, fait émerger une forme d'intelligence collective alors c'était pas les fourmis, c'était les abeilles, qui permet à chacune des abeilles de la colonie de s'adapter à un environnement complexe et changeant dont aucune abeille n'a à elle seule une représentation globale. Voilà, Jean-Claude Amezen, magnifique travail. Écoutez le samedi, sautez de, on vous le permet, hein, de sauter de 48 FM à France Inter pour une heure de voyage.
Oui,
d'accord. Sinon, on peut le, oui, tu le postes le podcast et après tu peux l'écouter quand il y a des émissions.
Oui, mais nous on est mis 24 heures sur 24 oui. Donc.
Voilà, mais admettons qu'il y ait une émission qui...
Quand vous êtes en vacances, loin... Ah non, remarque, on passe par Internet aussi. Bien, oui, mais c'est une très très bonne émission sur divers sujets, avec une très belle voix. On n'a pas parlé, tu n'as pas parlé de son grain de voix radiophonique.
Il l'a dit.
J'adorais son grain. Relever.
C'est un moment que
son grain, mais en radio, je trouve que ce qui est remarquable, c'est ce débit, ce... Alors, les musiques disent le flow. Le flow. C'est ce flow, hein, c'est ce flux qui est extraordinaire, la rythmique qu'il donne, la musique qu'il y a derrière.
Quand il parle souvent de mythologie aussi, il raconte des histoires mythologiques.
Il fait référence à énormément d'autres auteurs, c'est un puits de science. Et, bon, on est médecin, mais il est médecin, mais en même temps, il a des connaissances extrêmement ouvertes, il fait référence à plein de gens. On a l'impression d'être intelligent en sortant son émission et c'est quand même.
C'est accessible, mais bien documenté.
Par contre, on peut pas écrire en même temps et écouter son émission. Il faut être au calme, là, sur une terrasse, en train de boire un café, écouter ça.
D'où le podcast, Valérie.
C'est ça, voilà.
C'est bien.
Moi, je suis une inconditionnelle de Fabrice Drouel l'après-midi. C'est la voix qui m'a attirée avant d'écouter les contenus. Mais c'est pareil, c'est un peu le même type, mais en moins scientifique.
La maison d'édition, c'est France Inter.
Ok.
Éditeur France Inter. C'est pas la maison d'édition, mais l'éditeur, c'est France Inter.
Ok, ben on va justement rappeler tous les livres France Inter. Rappelle-nous le titre, Nico.
Donc, sur les épaules de Darwin, je t'offrirai des spectacles admirables.
D'accord, le premier livre que tu as présenté.
Abdourahman Awaberi dans la Divine Chanson édition Zulma.
Très bien, Anaïs.
Oui, alors moi j'ai présenté Le Sumo qui ne pouvait pas grossir d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel.
On ne rit pas, Valérie.
Et La Célibataire de India Desjardins aux éditions Michel Lafon.
Très bien, Valérie.
Moi, Kiko Buarque qui a écrit Budapest et John Steinbeck des Souris et des Hommes.
Allez, Stéphane Zweig, La pitié dangereuse ou L'impatience du cœur et Knut Hamsun. Fin. Voilà donc pour cette émission. Merci de l'avoir écouté. Vous retrouverez sur notre page Facebook les couvertures des livres qu'on a présentés, du moins ceux qu'on a ici aujourd'hui. Vous retrouverez l'émission ce lundi à 18h10 ou 18h30, je ne sais plus. Et bien sûr, on podcast dès cet après-midi. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour peut-être une dernière émission avant la coupure estivale. Et bien sûr, la fête de la musique. Et on vous rappellera notre horaire bientôt. Je crois que c'est 19h-20h. Il me semble.
Mais tu vas l'annoncer.
Mais je vais l'annoncer tout au long de la semaine, tous les jours, toutes les heures.
Surprise.
Bon week-end.
Allez, bon week-end à tous.
Bon week-end. Merci.
Ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Il y en a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
À Mende, c'est sur le 94.1.